Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous dresserons un premier bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, toutes les équipes ont joué leur premier match. Hier, le Cameroun, tenant du titre, a réussi son entrée en s'imposant logiquement 2-0 face à la Guinée-Bissau. Et le Bénin, quant à lui, a fait sensation en tenant en échec le Ghana. Match nul, de partout, certes, mais les écureuils ne sont pas passés loin de leur première victoire en phase finale. Alors après 5 jours de compétition, dites-nous si les favoris sont à la hauteur. Qu'avez-vous pensé finalement du niveau de jeu de votre sélection et comment envisagez-vous la suite de la compétition? Vos commentaires au standard, évidemment, 33 9 693 693 70 et vous continuez à poster vos réactions, vos analyses sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité. J'ai un œil, un regard permanent sur vos commentaires et vous nous envoyez également vos messages sur le compte WhatsApp de l'émission 33 6 89 28 53 64. Mais d'abord, vos questions à la rédaction. Et on va justement commencer avec une question sur la Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour Patrick.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Port-Gentil, au Gabon. On vous écoute.
Oui Juan, j'ai une question. La RDC a été battue la semaine dernière par l'Ouganda par un score de 2-0. Ma première question, comment peut-on expliquer cette défaite par rapport à leur défaillance?
C'est vrai, c'est une bonne question que vous posez. C'est vrai que pour leur premier match, les Léopards se sont inclinés 2-0 face à l'Ouganda. Certains ont même parlé d'humiliation pour les joueurs congolais. On va retrouver au Caire l'un des envoyés spéciaux de RFI. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde et bonjour à Port-Gentil où j'étais pour la CAN 2017.
Et voilà, Port-Gentil d'où nous appelle Patrick. Antoine, que s'est-il passé? Comment expliquer une telle défaite des Léopards?
La première erreur, Juan, des Congolais, ça a peut-être été de considérer que l'Ouganda était une petite équipe, tout simplement. Peut-être parce que Patrick, en bon Port-Gentillais, a gardé le souvenir de cette équipe ougandaise qui avait séjourné dans la ville portuaire il y a 2 ans. Elle était apparue un peu limitée, un peu défensive, c'est vrai, et sûrement impressionnée par cette première CAN depuis bien longtemps pour le pays. Cette fois, les Ougandais, c'est plus des novices, et ça s'est vu, ils étaient sur deux. En plus, quand Farouk Mia, leur métronome, joue comme il a joué face à la RDC, ça devient très difficile, d'autant qu'il était bien épaulé par l'attaquant Patrick Kadou, Emmanuel Okwi, qui ont été buteurs tous les deux. Donc cette équipe d'Ouganda, elle était moins facile à appréhender que prévu. Et puis surtout, il y a cette contre-performance côté congolais. Hein. Alors certes, Youssouf Mouloumbou n'était pas là et on sait à quel point le capitaine de la RDC, il est important, que ce soit par son charisme, par sa capacité à garder le ballon et à jouer dans les petits espaces. Mais ça ne peut pas tout expliquer. Marcel Tisserand, le défenseur central, qui a raté son match, hein, tout comme globalement la défense congolaise. Marcel Tisserand, il parlait après le match d'un manque de travail, notamment sur les coups de pied arrêtés qui ont été l'arme clé des Ougandais. Les deux buts viennent d'abord d'un corner puis d'un coup franc. Hein. Manque de travail, donc c'est la première explication. Et puis la chaleur a pu jouer aussi. Le match avait lieu à 16h30. Et Joseph-Antoine Bell, notre correspondant, vous le dirait, hein, la chaleur, c'est la même pour les deux équipes.
Ça veut dire, Antoine, que le côté extra-sportif a pu influer sur cette mauvaise performance congolaise?
Et oui, parce que la préparation des Congolais, Juan, elle semble n'avoir pas été maîtrisée de bout en bout, hein, au sens où, on va revenir sur des sujets qui fâchent, mais les visas non délivrés à Jackson Muleka et Kabongo Kasongo pour le stage en Espagne, ce qui les a privés de la sélection alors qu'ils étaient dans la préliste, ça c'est une erreur administrative évitable. La naturalisation de Gianelli Imbula aussi, le joueur n'a pas obtenu les papiers nécessaires à la validation de son dossier par la FIFA, et Imbula, il pointe la fédération, il assure que son dossier n'a pas été régularisé, en tout cas pas dans les temps. Alors sur cette affaire, il y a un autre son de cloche, hein, celui de Constant Omari, le président de la FECOFA, qui lui pointe un choix sportif du staff technique. Il y a un peu de friture donc sur la ligne côté congolais. Puis
Antoine Grenier. Alors on a perdu Antoine Grenier sur la ligne satellite.
Parce que leur dossier n'était pas complet. Ils n'ont donc pas pu s'entraîner.
On vous a retrouvé Antoine. Donc effectivement, j'imagine que vous parliez du fait.
S'entraîner et c'est une.
Oui, vous parliez que effectivement la veille du match, les Congolais n'ont pas pu s'entraîner.
C'était une erreur qui est quasi. Oui, et parce que leurs dossiers médicaux n'étaient pas complets. Et ça, c'est une erreur qui est quasi incompréhensible à ce niveau pour une compétition comme la Coupe d'Afrique.
Ouais. Patrick, vous aviez une autre question, une dernière.
Oui, Rouane. La RDC jouera ce mercredi face à l'Égypte, pays organisateur, devant son public. Quels sont les pronostics, Rouane?
Ah, ça s'annonce bien compliqué hein, pour les Léopards ce soir face au Pharaon Antoine Grenier.
Ouais, enfin, vous savez, Juan, les pronostics, je peux vous dire que si on pouvait prédire les scores des matchs à l'avance, on serait multimillionnaire. Hein, alors plus sérieusement, c'est un défi gigantesque qui s'annonce pour les Congolais. On l'avait dit pendant la retransmission du match avec Joseph-Antoine Bell et Thomas de Saint-Léger, bah, cette rencontre contre l'Ouganda, c'était ce qu'on appelle un match à 6 points. Va falloir gérer ce non-match et ses répercussions hein, pour les Léopards. Les excuses des joueurs sur les réseaux sociaux n'ont pas calmé entièrement la colère des supporters. Et puis surtout, bah, ils font face à l'Égypte, et l'Égypte, c'est redoutable, devant son public encore plus. Mohamed Salah et ses coéquipiers, bah, ils ont réalisé une entrée en lice, alors pas totalement convaincante, mais ils ont su gagner face aux Zimbabwéens, c'était là l'essentiel. Les Pharaons, c'est les archi-favoris de la compétition. Bah, ils ont l'occasion ce soir de se qualifier pour les huitièmes de finale, et c'est pas le genre des Égyptiens de rater ce genre d'occasion.
Oui, la RDC, dos au mur, on suivra ce match avec vous, Antoine Grenier, aux côtés de Christophe Jousset. Égypte, RDC, c'est dès 20h, temps universel au Caire, il fera chaud, hein. Il fera 35 degrés. Je regardais la météo avant d'entrer dans ce studio. 35 degrés à 20h, temps universel, donc 22h au Caire. Bonne journée Patrick et bon courage à vous, Antoine Grenier. Il est 10h17 à Paris. Sonia Rollet du service Afrique de RFI nous rejoint. Bonjour Sonia.
Bonjour.
On vous a demandé de venir car nous avons reçu des questions sur le procès du meurtre de Zaïda Catalan et Michael Sharp, les deux experts de l'ONU, assassinés il y a maintenant un peu plus de 2 ans en République démocratique du Congo. C'est Alidor qui nous a contacté. Bonjour Alidor.
Bonjour Juan Gomez, bonjour Sonia.
Vous êtes à Kinshasa.
Oui, tout à fait. Après plus de 2 ans, après l'assassinat de 2 experts de l'ONU dans les Kassai, 3 agents de l'État congolais ont été inculpés, alors que les responsables jusqu'à la pointée étaient les ministres de Kamouna Sapo. Du coup, je voudrais savoir à quel point ces inculpations incriminent-elles l'État congolais?
Ah, Sonia Rollet, c'est vrai que pendant plus d'un an, hein, le gouvernement congolais, l'ONU, assurait que les assassins de ces deux experts onusiens étaient des miliciens, les miliciens Kamuina Nsapu. Il y a eu donc ces 3 agents de l'État inculpés pour le meurtre de ces 2 experts. D'abord, un mot sur chacun des inculpés. Qui sont-ils?
Alors, il y a d'abord le colonel Jean-Denis Mambouini. Le colonel Jean-Denis Mambouini, donc c'est un officier de l'armée congolaise qui a été accusé dans le procès d'avoir distribué des armes en fait aux milices juste avant le meurtre pour qu'ils puissent tuer les experts. Et notamment dans les enquêtes qu'on avait pu mener avec un consortium de journalistes, on avait établi aussi qu'il s'était déplacé vers la zone du meurtre le jour du meurtre et qu'il était aussi en contact avec celui qui était le présumé traducteur et qui était un ancien agent de l'Agence nationale des renseignements, donc Betu Chintela par exemple, qu'il était en contact donc un peu avec tous les acteurs de terrain. Donc son nom est apparu essentiellement via les FADET, qui des principaux acteurs du drame. Il y a aussi 2 inspecteurs en fait de la Direction générale des migrations. Il y a José Chibouaboua et Thomas Kachama. Alors si le colonel Jean-Denis Mambouni a été arrêté l'année dernière, eux avaient été arrêtés en la fin de l'année 2017. Donc ça
il y a un an et demi maintenant.
Voilà, ça faisait quand même un certain temps. Et alors à l'époque, ce qu'on sait, c'est que José Chibouaboua était plutôt un agent de l'ANR, de l'Agence nationale des renseignements. Thomas Kachama est lui un proche de l'actuel chef Kamuina Nsapu. Donc c'est aussi des gens qui ont des liens justement avec la famille du chef Kamuina Nsapu. Mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que en tout cas au niveau des chefs d'accusation, on ne dit pas que l'État est responsable ou qu'il y a une part de responsabilité de l'État, puisque le colonel Jean-Denis Mambouini est poursuivi pour meurtre, mais il est aussi poursuivi pour non-respect de consignes, comme s'il n'avait pas respecté les ordres de ses chefs. Et puis il y avait aussi, et les 2 autres sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel. Donc ils ne sont pas pris dans ces chefs d'accusation.
Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de preuve d'une quelconque responsabilité de l'État dans l'assassinat de ces 2 experts?
Non, ça veut dire juste que dans les chefs d'accusation, en tout cas, on ne prend pas cette thèse comme principal, moteur des accusations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, au niveau des FADET et au niveau aussi de toute l'enquête qui a été faite par la police des Nations Unies, on voit qu'il y a quand même un réseau d'agents de l'État qui sont en communication à ce moment-là. Et c'est là où il va être important qu'ils soient présentés devant la justice et qu'ils aient à répondre de ces actes et notamment de tous ces coups de fil qu'ils se passent entre eux, notamment avant, pendant et après le meurtre, et qui se passent à des moments qui sont vraiment clés.
Autre question, Alidor.
Tout à fait, Juan. Les proches des victimes demandent à la justice congolaise d'aller plus loin pour établir les faits. Quelles répercussions peuvent avoir ces inculpations sur le déroulement du procès et à quoi s'attendre du coup ?
Sonia Rollet.
Alors justement, hein, c'est parce qu'il y a ces acteurs-là qui sont aujourd'hui accusés de meurtre, donc qui sont considérés comme des acteurs principaux du drame. Et bien maintenant, on va pouvoir s'intéresser à tout leur entourage, c'est-à-dire tous ces gens qui sont en contact. On a vu notamment, par exemple, le directeur provincial de l'Agence nationale des renseignements être convoqué en début de semaine pour répondre à certaines des éléments d'information donnés par l'un des principaux accusés, Jean-Bosco Mukanda. Et notamment, Jean-Bosco Mukanda disait « Je suis en contact avec les autorités, j'étais en contact avec des militaires. » Et il a même écrit au tribunal en citant les noms des officiers. Et c'est vrai que quand on regarde, en tout cas, les fadettes de ces acteurs, on se rend compte, effectivement, que même quelqu'un comme Jean-Bosco Mukanda, qui est un ancien chef de milice, lui aussi est en contact constant pendant le meurtre, enfin, pas pendant le meurtre, mais avant et après le meurtre, avec des officiers FRDC.
Ouais. Quand certains disent l'inculpation du colonel Mambouni va ralentir le procès, car il va falloir désigner un juge plus gradé que lui, il est colonel, il est jugé devant la cour militaire.
C'est que pour l'instant, c'est devant le tribunal de garnison de Canada. Et lui étant un officier, a priori ça va être la cour, enfin en tout cas son dossier a été renvoyé devant une autre cour de justice, c'est la cour militaire en fait de l'ex-province du Kasaï occidental.
Ouais.
Et donc forcément c'est une... Et ce qui va être problématique un peu pour le dossier, parce que ça veut dire qu'on va juger d'un côté, juger de l'autre, et après on va voir comment la justice fonctionne pour faire que effectivement les témoins passent de l'un à l'autre, et que ce qui est dit dans un procès soit bien entendu aussi dans l'autre.
Merci d'être venu décrypter cette actualité pour Alidor et l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent. Bonne journée Sonia Rollet. Alidor, merci de nous écouter à Kinshasa, 10h22 à Paris. On repasse au standard au 33 9 693 693 70. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Dakar, au Sénégal. Vous avez des questions, vous, sur la victoire du candidat de l'opposition à l'élection municipale d'Istanbul, en Turquie.
En effet. Alors, Ekrem İmamoğlu a été élu maire d'Istanbul à l'issue d'un second vote face au candidat de l'AKP. Le premier scrutin avait été annulé. Je me pose alors les questions suivantes. Comment expliquer cet important rejet du parti au pouvoir et la progression d'Ekrem İmamoğlu entre les deux scrutins? Cette défaite peut-elle avoir un impact sur l'avenir politique d'Erdogan?
Alors,
peut-il craindre un effet domino?
Un effet domino. On va poser ces questions à Samim Aghonoul. Bonjour.
Bonjour.
Historien, politologue, directeur du département d'études turques de l'Université de Strasbourg. Première question de Stéphane, intéressante. Au premier vote, c'était le 31 mars, le candidat de l'opposition avait seulement 13 000 voix d'avance sur son rival de la KP. Pour cette seconde élection, l'opposant a remporté le scrutin avec plus de 800 000 voix d'avance. Comment expliquer cet excellent score de l'opposant ?
Oui, il doit y avoir des raisons à la fois conjoncturelles et structurelles. Conjoncturellement parlant, la campagne du pouvoir était tout azimut, sans slogan, incohérente, véritablement essayant de s'adresser et de retourner la situation avec des coups bas. Donc ça a complètement déplu à l'électorat. Deuxièmement, au contraire, la campagne de l'opposition était cohérente, avec un slogan, avec un leader jeune, et l'électorat istanbouliote n'a pas apprécié du tout l'annulation du premier scrutin. Ça avait déjà eu lieu, ce type d'annulation des résultats des élections en Turquie, mais ça avait déjà eu lieu dans les élections législatives générales et donc dans le chaos général du pays, ça avait été accepté. Ça avait déjà eu lieu dans des villes du Kurdistan turc au sud-est, mais c'était très éloigné du centre, mais à Istanbul, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase.
Ça veut dire quoi, Samim Aghonoul, que cette écrasante victoire de l'opposition, c'est un sérieux camouflet pour le président Erdogan? On se souvient du président Erdogan qui disait il y a 2 ou 3 ans, celui qui tient Istanbul tient la Turquie.
Oui, c'est vrai. D'autant plus que lui-même a commencé sa carrière en 1994 en tant que maire d'Istanbul. Alors camouflé ou pas, c'est un camouflet. C'est perçu comme un camouflet. Mais s'il y aura un changement de régime, je n'en suis pas si sûr. Dans la mesure où la Turquie est un pays très centralisé, le maire d'une grande ville, bien que ce soit la plus grande ville de la Turquie, n'est que le maire. tout le régime est entièrement verrouillé par Recep Tayyip Erdogan. Tous les pans du pouvoir sont entre ses mains. Donc on peut voir un camouflet symbolique, mais au niveau de la gouvernance, au niveau de l'administration, je ne m'attends pas à un changement immédiat.
Oui.
De la vie, ça peut être effectivement le début d'un déclin.
Alors, pas de changement immédiat, mais tout le monde pense déjà à 2023, la prochaine élection présidentielle. On ne doute pas qu'Imamoglu sera un candidat redoutable. Il sera forcément candidat à la présidentielle, forcément face à Erdogan. Ce sera compliqué.
Oui, ce sera compliqué. Déjà, nous ne sommes pas sûrs que les élections attendront 2023. La Turquie est le champion des élections anticipées. Il peut y avoir des élections aussi anticipées. Deuxièmement, c'est un pays où l'opinion publique change très rapidement. Donc, du jour au lendemain, dans 6 mois, il peut y avoir un autre héros. Cela dit, vous avez raison, Imamoglu a brassé large. Il a pu toucher tous les pans de la société, des conservateurs jusqu'aux gauchistes. Et le pays est à la recherche d'un autre leader que Recep Tayyip Erdogan, qui devient de plus en plus autoritaire. Donc, logiquement parlant, effectivement, c'est un adversaire très sérieux pour 2023 ou avant.
Ouais. Stéphane, à Dakar, est-ce qu'on a répondu à vos questions ?
Oui, Juan.
Oui. Je voudrais aller un tout petit peu plus loin que votre question, Stéphane. Samima Gonoul, Stéphane nous disait cette défaite peut avoir un impact sur l'avenir politique d'Erdogan. Vous y avez répondu. Mais malgré tout, est-ce que Erdogan ne sera pas contraint dans les prochains mois, peut-être de lâcher du lest concernant les libertés, concernant également sa politique économique qui est quand même décriée. Les Turcs l'ont sanctionné aussi pour ça.
Il y a trois pans du pouvoir qui sont très critiqués, trois aspects du pouvoir. Premièrement, la crise économique. Ça, c'était la raison structurelle que je n'ai pas pu dire tout à l'heure. Véritablement, aujourd'hui, le pays ressent cette crise économique en tête desquelles il y a les Istanbuliotes. Deuxièmement, vous l'avez bien dit, la question des libertés, de la démocratie participative, les droits de l'homme. N'oublions pas que les leaders du parti d'opposition HDP sont toujours en prison. N'oublions pas qu'il y a des universitaires qui sont en prison parce qu'ils ont signé une pétition, des journalistes en prison, etc.
Ouais.
Et troisièmement, la politique étrangère, bien entendu. Les erreurs de la politique étrangère, à la fois au Proche-Orient et l'éloignement de l'Union européenne, font que cet aspect aussi est très critiqué. Donc on peut s'attendre à un infléchissement de la politique de Recep Tayyip Erdogan sur ces trois points, mais sans grand espoir.
Bon, vous en doutez, en tout cas vous êtes sceptique. Merci, je pense avoir été complet, Stéphane. Bonne journée à Dakar et merci à Samima Gonoul d'avoir été avec nous. Toutes nos excuses pour Yvan, qui est au standard, qui était déjà à deux doigts de passer à l'antenne. On a pris un peu de retard, Yvan, ce matin, mais comptez sur nous, on vous rappellera demain, d'autant que vous aviez des questions qui seront toujours d'actualité, des questions sur la succession de Theresa May au Royaume-Uni. Donc, comptez sur notre appel demain matin. Beaucoup de réactions déjà au standard pour dresser un premier bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai sous les yeux vos commentaires sur WhatsApp et Facebook. Il y a Jean-Paul. Alors, les Congolais se mobilisent. Hein. Ils sont nombreux à nous appeler. Jean-Paul, qui est à Kisangani et qui critique les prestations des Léopards. Les Léopards, le bilan est négatif. Pas de jeu. Rien n'est cohérent. C'est regrettable. Nous n'attendons rien de nos joueurs. Le coach Florent Ibenge est obligé de démissionner. Luongue, qui est à Lubumbashi, nous dit le niveau de jeu des Léopards ne permet pas de passer la phase de poule. Je suis conscient que nous ne gagnerons aucun match. Voilà quelques-uns des commentaires qui nous arrivent de la République démocratique du Congo à 10h maintenant, 12h exactement du coup d'envoi. RDC, Égypte, ce sera évidemment à suivre ce soir. Les Congolais, dos au mur, s'ils ne remportent pas ce match, eh bien, ils pourront commencer à préparer leurs valises pour retourner en RDC. On dressera en tout cas un bilan des premiers matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations juste après le journal. Vous nous appelez 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.